Chapitre 3 Grande bataille. Dès le soir même, vers 6 heures, Corcoran se mit à l'affût dans le parc. Par précaution et de peur d'avoir à lutter contre les compagnons de Louison, il prit un revolver. Il avait tort. Il ne faut jamais se mêler sans nécessité des affaires de son prochain, et même de ses plus intimes amis. Au reste, Corcoran fut sévèrement puni de sa curiosité, ainsi qu'on le verra bientôt. Vers 6 heures un quart, assis sur le mur, à quelques pas de l'endroit désigné, il entendit un grand bruit de feuilles froissées. C'était l'étranger qui se rendait à son poste dans le fossé au pied du mur et qui annonça tout d'abord sa présence par un rugissement voilé, comme s'il eût voulu, et c'était en effet son intention, n'être entendu que de Louison. Celle-ci ne se fit pas attendre. Elle s'élança d'un bond sur le mur, jeta un regard distrait dans le fossé et, sans s'émouvoir de la présence de Corcoran, qu'elle voyait très bien, écouta le discours du grand tigre. Il a été longtemps à la mode de croire que les animaux n'avaient qu'un vague instinct et qu'ils ne raisonnaient ni ne sentaient. Descartes l'a dit, Malebranche l'a confirmé, tous deux se sont appuyés sur le témoignage de plusieurs illustres philosophes, ce qui prouve que les savants n'ont pas le sens commun. Que Malebranche m'explique, si c'est possible, pourquoi le tigre venait régulièrement tous les soirs faire visite à Louison, et quel scrupule de délicatesse empêchait celle-ci de le suivre au fond des bois et de reprendre sa liberté. C'était, qui pourrait en douter, l'amitié de Corcoran qui la retenait à Bagavapour. Ils se connaissaient et s'aimaient depuis si longtemps que rien ne semblait plus pouvoir les séparer. Ils se séparèrent pourtant. La conversation du grand tigre et de Louison devait être intéressante, car elle était fort animée. Corcoran, qui prêtait l'oreille et qui entendait la langue des tigres aussi bien que le japonais ou le mandchou, la traduisit à peu près ainsi. « Ô ma chère sœur, aux yeux fauves qui brillent dans la nuit sombre comme les étoiles du ciel, » disait le tigre. « Viens à moi et quitte cet odieux séjour. Laisse là ces lambris dorés et ce palais magnifique. Souviens-toi de Java, cette belle et chère patrie où nous avons passé ensemble notre première enfance. C'est de là que je suis venu en nageant d'île en île jusqu'à Singapour et redemandant ma sœur à tous les tigres de l'Asie. J'ai parcouru depuis 3 ans Java, Sumatra, Bornéo. J'ai fouillé toute la presqu'île de Malacca. J'ai interrogé tous ceux du royaume de Siam, dont le pelage est si soyeux et si lustré, tous ceux d'Ava et de Rangoon, dont la voix retentit comme un éclat de tonnerre, tous ceux de la vallée du Gange, qui règnent sur le plus beau pays de la terre. Enfin je te retrouve. Viens au bord du fleuve limpide, au milieu des vertes forêts. Mon palais à moi, c'est la vallée immense, c'est la montagne qui se perd dans les nuages, le Gaurisankar, dont nul pied humain n'a foulé les neiges éternelles. Le monde entier est à nous, comme il est à toutes les créatures qui veulent vivre librement sous le regard du Dieu. Nous chasserons ensemble le daim et la gazelle, nous étranglerons le lion orgueilleux et nous braverons le lourd éléphant, ce misérable esclave de l'homme. Notre tapis sera l'herbe fraîche et parfumée de la vallée, notre toit sera la voûte céleste. Viens avec moi. » En même temps, une mélodie étrange, qui avait l'apparence d'un rugissement sauvage, roulait dans son gosier en cascade sonore. Louison ne se laissa pas émouvoir. D'un coup d'œil expressif, elle lui montra Corcoran, ce qui, dans la langue des tigres, signifiait assez clairement « Mon cher frère à la robe tachetée, j'écoute avec plaisir tes discours, mais il y a des témoins. » Les yeux du tigre se tournèrent aussitôt vers le malouin et exprimèrent la plus terrible férocité, ce qui signifiait évidemment « N'est-ce que cet importun qui te gêne? Sois tranquille, je vais t'en débarrasser sur le champ. » Déjà, il se ramassait pour prendre son élan et sauter sur le mur. De son côté, Corcoran s'apprêtait à le recevoir avec son revolver. Au moment même où le grand tigre s'élançait, un autre tigre, que personne n'avait vu ni entendu jusque-là, bondit sur lui, le saisit à la gorge et le fit rouler sur l'herbe. Le premier se releva aussitôt et, d'un coup de sa griffe puissante, entama les entrailles de son ennemi en poussant un rugissement de fureur. Le combat fut quelques instants douteux. Le frère de Louison, quoique surpris, se défendaient vaillamment. Leur force était à peu près égale, et une haine pareille les animait l'un contre l'autre. Louison les regardait tranquillement, quoiqu'elle ne fût pas indifférente à la querelle. Mais elle avait trop l'orgueil de sa race, et de sa famille pour craindre que son frère pût être vaincu et qu'un tigre du Bengale l'emportât sur un tigre de Java. Cependant, la victoire parut se décider contre le frère de Louison. Il roula sur le gazon et poussa un cri de détresse. À ce cri, les yeux de Louison étincelèrent de mépris. Elle poussa un sourd rugissement qui semblait dire « Malheureux, tu fais honte à ta race !» Ce rugissement rendit la force et le courage au malheureux tigre. Il regarda une dernière fois Louison, donna un coup de dent désespéré à son adversaire et s'élança, en grimpant avec la rapidité de l'éclair, sur un chêne voisin, dans les branches duquel il parut chercher un asile. L'autre, se croyant maître du champ de bataille, entonna d'une voix qui ressemblait à un tonnerre lointain son chant de triomphe. Mais ce chant fut aussi court que sa victoire. Le vaincu se glissant d'arbre en arbre jusqu'à un sycomore dont les branches pendaient à peu de distance du vainqueur, bondit tout à coup sur lui, et d'un effort désespéré le saisit à la gorge et l'étrangla net. Cette fois la bataille était terminée, et le grand tigre parut attendre les félicitations de Louison. Celle-ci, charmée du courage de son frère, se décida enfin à sauter au bas du mur et disparut dans les ténèbres. Corcoran eut d'abord envie de la suivre. Mais il réfléchit que la nuit était obscure et pleine de pièges, et qu'il valait mieux attendre le lever du jour. Il rentra donc, très affligé de la perte de Louison, et s'endormit bientôt, mais d'un sommeil agité. Le matin, au moment où il sortait du palais décidé à lui donner la chasse, il la vit revenir d'un air aussi gai et d'un cœur aussi content que si elle n'avait rien eu à se reprocher. À cette vue, le malouin ne fut pas maître de sa colère et alla chercher sifflante sa fameuse cravache. Louison demeura stupéfaite. Elle était allée se promener. Quoi de plus naturel? N'était-elle pas née dans les bois, au bord des grands fleuves? Avait-elle perdu le droit imprescriptible, antérieur et supérieur, d'aller et de venir? Elle avait suivi Corcoran comme un ami. Devait-elle le considérer désormais comme un maître? Voilà ce que disaient les yeux de la tigresse. Mais le malouin ne réfléchissait pas que lui-même, en épousant Sita et en la préférant à tout, il avait fait quelque chose de semblable et manqué au devoir de l'amitié. Il ne songeait, comme c'est l'usage de tous les hommes, qu'au tort de son ami, et leva sifflante sur les épaules de Louison. Ce geste la remplit d'indignation. Quoi? C'est ainsi qu'il la traitait. Le cœur de Louison se gonfla. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle se rejeta en arrière par un bond si brusque qu'il fut impossible à Corcoran de la retenir. Il sentit alors sa faute et voulut la réparer. Il jeta au loin la cravache et voulut prendre la tigresse par la douceur. Il lui fit les appels les plus touchants et protesta que jamais il ne lui infligerait l'odieux châtiment dont elle avait été menacée un instant. Elle s'approcha, se laissa caresser, écouta en silence les discours de Corcoran, alla baiser la main de Sita et parut avoir tout oublié. Mais il vit bien que quelque chose s'était rompu entre eux, et que la première fleur de leur amitié réciproque était flétrie et desséchée. Il résolut donc de la surveiller plus que jamais, et de ne plus la laisser sortir sans lui. Vers 5 heures du soir, au moment où Louison se préparait à recommencer sa promenade, Corcoran l'enferma dans la grande salle du palais d'Olcar, située au premier étage, et qui dominait le parc d'une hauteur de 30 pieds. Pour plus de sécurité, il mit le gros éléphant Sindia en embuscade sous les fenêtres. La jalousie qui animait Sindia contre Louison, tous deux se disputaient les bonnes grâces de Sita, répondait à Corcoran de sa fidélité. Rien ne saurait peindre l'indignation de Louison quand elle se vit enfermée et traitée en prisonnière de guerre. Elle rugissait si terriblement que le palais en trembla sur sa base et que les habitants de Bhagavapur se cachèrent dans leurs caves. Corcoran l'entendit et en eut pitié. Sita même implora la grâce de Louison et ses principaux serviteurs qui craignaient d'être mis en pièces par la redoutable tigresse se jetèrent aux pieds du maître pour demander sa liberté. « Maharaja, dit Ali, le seigneur de Bodhankun et de Gwalior, cousin germain du soleil et de la lune, neveu des étoiles, favori du tout-puissant Indra qui éclaire les mondes, daigne ordonner que Louison soit relâché, ou nous sommes perdus. » Mais Corcoran était de ces hommes qui ne reviennent jamais sur leur résolution. Sa tête avait la solidité du fer et sa volonté l'inflexibilité du granit. Il refusa donc absolument de rendre la liberté à Louison. Celle-ci, cependant, ne perdait pas courage. Voyant que personne ne viendrait la délivrer, elle bondit tout à coup d'un élan furieux, enfonça l'une des fenêtres de la salle et, toute sanglante, allait prendre la fuite. Mais un grave accident la retint. Trop pressée de sauter par la fenêtre pour mesurer son élan, elle était tombée non pas sur le gazon, mais sur le dos de l'éléphant Cynthia, qui était justement chargé d'empêcher toute escapade. Il ne pouvait rien arriver de plus malheureux à la pauvre Louison. Outre que Cynthia ne l'aimait pas, elle tomba si malencontreusement, elle si adroite en toute chose, qu'elle se sentit glisser du dos de l'éléphant jusqu'à terre, et par instinct, de peur de se casser le nez, enfonça ses griffes acérées dans les épaules de Cynthia. Par ce moyen, elle se retint en équilibre, et un autre saut l'aurait mise à terre, mais Cynthia la guettait. Au moment où elle allait s'élancer, l'éléphant la saisit délicatement par le cou avec sa trompe, l'enleva comme une plume, la balança 3 fois dans les airs, comme un habile frondeur brandit sa fronde, et la rejeta dans la grande salle du palais. Corcoran, qui observait cette scène en silence, ne put s'empêcher de rire du tour de l'adresse de Cynthia. Mais ce rire redoubla la rage de Louison. À peine retombée sur ses pattes, elle reprit son élan, essayant cette fois d'éviter la dangereuse trompe de Cynthia. Inutile effort. Cynthia l'attrapa au passage, comme une hirondelle attrape les mouches au vol, la posa délicatement à terre sans la lâcher ni lui faire aucun mal, la souleva lentement pour la regarder, comme s'il avait eu son lorgnon, et tout d'un coup, quoiqu'elle se débattît avec une fureur indescriptible, la rejeta de nouveau dans la grande salle du palais. Le jeu devenait dangereux et commençait à passer la plaisanterie. Corcoran le sentit, et il allait intervenir pour empêcher un combat où Louison, malgré tout son esprit et son courage, n'avait pas le beau rôle lorsque l'affaire changea subitement de face par l'arrivée d'un nouveau combattant. Le grand tigre de la veille était arrivé au rendez-vous une demi-heure plus tôt qu'à l'ordinaire. Il entendit tout à coup les rugissements de Louison et les grondements moqueurs de Cynthia. Inquiet, il s'élança d'un bond sur le mur du parc, vit de loin ce qui se passait et s'avança en rampant vers le gros éléphant qui, tout occupé de son jeu, ne s'attendait pas à livrer un nouveau combat. Mal lui en prit, car Louison, qui de la fenêtre guettait l'arrivée du tigre, ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'elle se prépara de nouveau à le rejoindre. Elle lui donna du regard le signal de l'attaque, et tandis que Cynthia, suivant la tactique ordinaire, avançait sa trompe pour l'attraper au passage, il sentit tout à coup une douleur aiguë. Le tigre, profitant de ce que Cynthia avait le dos tourné, s'était élancé sur lui sans être vu, et lui déchirait la queue avec ses griffes. Cynthia se retourna et voulut saisir son ennemi avec sa trompe, mais Louison, plus prompte que la pensée, profitant de l'occasion, sauta légèrement sur son dos, de là à terre et prit la fuite. Le grand tigre, content d'avoir fait diversion et délivré sa sœur, ne se soucia plus de la queue de l'éléphant, et ne pensant plus qu'à éviter sa trompe, s'empressa d'imiter l'exemple de Louison. Déjà tous deux avaient gagné le mur du parc et allaient sauter de l'autre côté, quand Cynthia, honteux d'avoir été trompé et trop lourd pour rattraper les fugitifs, saisit avec sa trompe une grosse pierre et la lança sur le tigre avec une telle roideur que s'il l'avait atteint dans le flanc, il l'aurait écrasé comme un raisin. Heureusement, il manqua son coup. La pierre ne toucha qu'à peine le tigre à la naissance de la queue et le culbuta dans le fossé sans lui faire d'autre mal. Quant à Louison, dès qu'elle eut vu Cynthia ramasser la pierre, elle devina son dessein et bondit de l'autre côté du mur avec une agilité extraordinaire. Là, se voyant en sûreté, elle releva, plaignit et consola son compagnon qui léchait tristement sa blessure et partit avec lui, bien résolue à ne plus jamais revoir ni le palais, ni Corcoran, ni même la belle Sita, qui la comblait tous les jours de caresses et de sucreries. Mais qu'on se rassure, ce n'est pas ainsi que devait finir l'amitié de Louison et de Corcoran. Le destin devait les rapprocher bientôt, dans les plus graves circonstances. Ce même destin combla quelques mois plus tard les vœux de Corcoran et de Sita. Dieu leur donna un fils aussi beau que sa mère, et qui fut appelé Rama, du nom de l'illustre chef de la dynastie des Ragouides, dont Sita était la dernière descendante. La joie des Marathes fut au comble, ils voyaient renaître en lui cette race glorieuse. Pendant 3 jours, toute la nation célébra par des banquets splendides cet heureux événement. Corcoran, toujours économe pour lui-même, mais généreux pour son peuple, fit seul les frais de ses fêtes et de ses réjouissances publiques. Pour la première fois depuis que le monde est monde, on vit un prince qui donnait de l'argent à ses sujets au lieu de leur en demander. Ce fait même est si merveilleux qu'il pourrait mettre en doute l'authenticité de l'histoire du capitaine Corcoran et la véracité de l'historien si 15 millions de marâtes, témoins oculaires, ne vivaient pour attester la générosité du Maharaja, et si l'on ne trouvait la description du banquet dans une correspondance du Bombay Times du 21 octobre 1858. Le correspondant termine son récit par les réflexions qui suivent et qui montrent bien toute l'inquiétude que les maximes de gouvernement si nouvelles causaient aux journaux anglais de l'Inde. On ne peut nier que le Maharaja actuel, malgré son origine étrangère, ne soit devenu très populaire parmi les Marathes. Il a diminué l'impôt des 5/10, il a supprimé les levées d'hommes que faisaient ses prédécesseurs, son armée, qui est peu nombreuse et comportée seulement de volontaires, manœuvre avec un ensemble et une précision admirables. Il a fait venir de France et payé comptant 100 000 carabines rayées, pourvues de sabres baïonnettes et semblables à celles des tirailleurs de Vincennes. Son artillerie, sans être excellente, est très légère et très supérieure à celle que nous pouvons lui opposer dans l'Inde, où, par la négligence, l'incurie et l'incapacité de Lord Braddock et de ses prédécesseurs, toutes nos institutions militaires ont misérablement dépéri. Il n'est pas seulement un général habile, ainsi que le colonel Barclay l'a éprouvé à ses dépens, il est le premier soldat de son armée. Ses sujets ont pour lui une sorte d'admiration superstitieuse. Les hindous croient, et ils laissent dire, que son corps est impénétrable aux balles et aux poignards. Aussi personne ne serait assez hardi pour se mesurer avec lui, si l'on pouvait avoir envie de conspirer contre sa vie. Sa cravache seule ferait trembler les assassins. Du reste, il est affable, bienveillant, doux avec tout le monde et surtout avec les faibles et les opprimés. Quiconque veut pénétrer dans son palais peut le faire à toute heure, sans que les serviteurs repoussent ou interrogent le nouveau venu. Une seule partie du palais est réservée, et c'est celle qu'aucun gentleman ne voudrait montrer, je veux dire les appartements de la reine. Mais Sita se montre elle-même tous les jours en public et le peuple peut la voir et lui parler. Je dois même dire que sa beauté merveilleuse et sa bonté, dont on raconte des traits surprenants, ne sont pas les moindres causes de la popularité du Maharaja Corcoran. Son essai de gouvernement représentatif a beaucoup mieux réussi qu'on ne devait s'y attendre dans un pays habitué jusqu'ici au plus dur esclavage. Ses députés, comme ils les appellent, commencent à comprendre leurs intérêts et à les discuter très passablement. Pour lui, il ne cherche à influencer personne, il écoute patiemment tout le monde, et même les imbéciles, car, disait-il l'autre jour en riant à un Français qui est venu le visiter, ceux-là aussi ont le droit de donner leur avis, d'autant mieux qu'ils forment toujours la majorité. Un tel homme, devenu si jeune encore, par un coup de fortune, par son audace et par son génie, chef d'une nation puissante, à l'âge où Napoléon Bonaparte lui-même n'était encore qu'un simple officier d'artillerie, est l'ennemi le plus redoutable que nous puissions rencontrer dans l'Inde. Il a tout le génie de Robert Clive et de Dupleix, sans leur rapacité. Il n'aime pas l'argent, qui est la grande passion de tous les maîtres de l'Inde. Il sait caresser toutes les classes, flatter tous les préjugés et parler toutes les langues de l'Inde. Ce sont là de grands moyens de plaire à une nation incapable de se gouverner elle-même et qui a toujours eu pour maître des étrangers, musulmans ou chrétiens. C'est à Lord Braddock de surveiller soigneusement cet homme redoutable. S'il faisait venir d'Europe quelque aventurier déterminé comme lui, s'il augmentait peu à peu son armée déjà très aguerrie, s'il faisait appel à tous les mécontents de l'Inde, peut-être mettrait-il en danger notre domination plus facilement que n'ont pu le faire le sanguinaire Nana Sahib et la reine Doud. On objectera qu'il aurait pu se joindre aux Sipahis révoltés et qu'il ne l'a pas fait, ce qui est une marque de ses sentiments pacifiques. Sa tranquillité n'était qu'apparente. Il achève ses préparatifs. Quelques-uns de ses émissaires font courir des prophéties dans le peuple. Il est dit publiquement dans les tavernes et dans tous les lieux publics que la délivrance de l'Inde est proche et qu'elle sera due à un homme au teint blanc qui aura passé la mer. Si l'on pouvait conclure avec lui une alliance solide, il faudrait le faire, car il n'y a pas d'ami plus précieux ou d'ennemi plus redoutable. Mais on s'y est mal pris. On l'a traité d'abord comme un aventurier, comme un bandit sans feu ni lieu. On a excité en lui deux passions redoutables, l'ambition et l'amour de la vengeance. Il n'est plus temps aujourd'hui de se fier à lui. Tôt ou tard, il nous fera la guerre. Déjà bien loin de consentir, comme tous les princes de l'Inde, à subir la présence et la tutelle d'un résident anglais, il n'a voulu entretenir avec nous aucune relation d'amitié ou de bon voisinage. Il a donné asile à tous les fugitifs qui craignent notre vengeance, et lorsqu'on lui a demandé de les livrer, il a répondu qu'un Français ne livrait jamais ses hôtes. Tout cela indique assez quels sont ses desseins, et le plus sage serait de le prévenir avant qu'il ait eu temps de se rendre redoutable. Malgré toute son audace et ses succès, il n'est pas sans sujet d'alarme. Les réformes qu'il a introduites dans l'administration et les lois du peuple marathe, bien qu'approuvées par son assemblée législative, ont excité la haine des zémindars, grands propriétaires fonciers qui disposaient de tout avant son arrivée. Il ne serait pas difficile d'exciter leur jalousie et, en leur donnant appui, de renverser le nouveau Maharaja. C'est même le seul moyen de prévenir le danger dont nous sommes menacés. Et Lord Braddock aura une belle occasion de réparer ses fautes passées et de signaler son administration par un coup d'éclat. On voit, par l'article qui précède, quelle opinion avaient de Corcoran ses ennemis, les Anglais. À peu de choses près, ils avaient raison, car le Malouin, sans communiquer son dessein à personne, avait repris le plan de Dupleix et du fameux Bussy, et se proposait de chasser les Anglais de l'Inde. Mais une si grande entreprise ne pouvait pas être exécutée avant 5 ou 6 ans, et il attendait en silence. Malheureusement, les Anglais le prévinrent, ainsi qu'on va le voir.